Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est presque 9h41 sur France Inter et soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Demain, jour de vote en Israël où la tension est à son comble. France Inter vous raconte les enjeux de cette élection. À réécouter sur le site ou sur l'appli, le zoom de la rédaction sur la place de la religion dans ce pays complexe. Ce soir, vous retrouverez évidemment Fabienne Sintès à 18h. Un jour dans le monde rebondit sur l'actualité chargée du week-end où Israël va légaliser une colonie en Cisjordanie. Quant à moi, ce matin, je vous propose une plongée au cœur des médias israéliens. Complètement accro à Benjamin Netanyahou, bête de scène et de micro, mais qui déteste, lui, il déteste les journalistes. Il multiplie les scandales de corruption impliquant des patrons de médias et il excelle sur les réseaux sociaux exactement comme il fut précurseur en matière de télévision il y a 20 ans.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Ezra Israël, Ezra Messiba, Ezra Chagiga, אל תשכחו לעשות דבר אחד, להצביע מחר. גל בלקר לבית, מאור אדרי, תן לנו בהישגים.
Voilà, un clip de campagne de Benjamin Netanyahou sorti au début du mois et publié sur Facebook où là il y a surenchère de vidéos. Bonjour Piotr Smollard.
Bonjour.
Alors il y a deux semaines, parce que c'est assez inhabituel dans cette émission, je vous recevais à ce micro pour la sortie de votre ouvrage « Mauvais Juif » qui vient de paraître aux éditions de l'Équateur. Et je rappelle que vous avez été le correspondant à Jérusalem du Monde pendant 5 ans. Vous venez de rentrer à Paris, vous avez un petit peu de temps parce que vous vous occupez du livre, alors on s'est dit, hop, Piotr Smollard, il revient à 15 jours d'écart.
Je voudrais rassurer les auditeurs, je ne serai pas là tous les jours.
Hein. Ah bah, attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, et puis d'autant que cette année, vous avez publié dans Le Monde une longue enquête intitulée « Les médias, passion fatale de Benjamin Netanyahou ». On va commencer, si vous le voulez bien, Piotr Smollard, on va prendre quelques faits assez spectaculaires qui traduisent à mon avis assez bien les relations qu'entretiennent Benjamin Netanyahou et les médias de son pays. D'abord, l'appel au boycott de la chaîne Channel 12 suite à la parution d'une série qui s'appelle Our Boys.
Channel 12 diffuse en ce moment, et c'est absolument incroyable, une série qui s'appelle Our Boys. La moitié d'un épisode revient sur l'enlèvement et le meurtre tragique de 3 garçons juifs. Puis on passe ensuite au meurtre tout aussi tragique d'un jeune arabe, ici à Jérusalem. Mais le reste de la série ne parle plus des 3 garçons juifs. Elle préfère calomnier sans arrêt Israël. Je ne suis pas surpris, puisque je suis habitué à être moi-même calomnié quotidiennement.
Voilà, c'est un homme d'État qui appelle au boycott d'une chaîne de télévision après l'apparition d'une série. C'est très très inhabituel.
C'est totalement inhabituel. La série aussi est inhabituelle, c'est-à-dire que c'est une série qui raconte un événement absolument tragique, et l'enlèvement de 3 adolescents en juin 2014, juste avant la dernière guerre à Gaza. Mm-hmm. Et ces 3 adolescents qui ont été enlevés en Cisjordanie avaient été retrouvés morts. Et ça avait été un véritable drame national, une onde de choc. Et ce que reproche Netanyahou à cette série, c'est de consacrer trop d'importance un autre fait divers qui a eu lieu à la fin du mois et qui était le supplice d'un jeune adolescent de 13 ans, palestinien, qui avait été brûlé vif.
En représailles.
En représailles. Mm-hmm. Et donc, il considère qu'il y avait un déséquilibre et que par conséquent, les créateurs de cette série sont en quelque sorte anti-israéliens parce qu'ils ne relaient pas la narration nationale. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, c'est qu'un prétexte. La véritable raison, c'est que cette chaîne en question, la chaîne Channel 12, a sorti énormément d'informations confidentielles, de scoops sur les affaires à l'instruction contre Benjamin Netanyahou et ses affaires de corruption. C'est ça la véritable
Alors,
raison.
Alors, vous faites justement écouter à nouveau Benjamin Netanyahou qui parle des journalistes d'investigation de cette chaîne, la chaîne donc numéro 12.
Révéler des informations sur des enquêtes en cours est un acte criminel, passible d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Mais pour eux, les médias, tous les moyens sont bons pour imposer un régime de gauche contre la volonté du peuple. Cela ne marchera pas si vous ne les laissez pas faire. La seule façon, c'est par le scrutin.
Alors évidemment, là, on a doublé Benjamin Netanyahou. Il y a eu aussi une affiche anonyme. Elle n'était pas signée et elle montrait le visage de quatre célèbres journalistes israéliens, Raviv Drucker de Channel 10, Guy Peleg et Amon Abramovitch de Channel 12 et enfin Ben Scapi du quotidien Maariv. Et le slogan « Ils ne décideront pas ».
Imaginez la violence symbolique.
De cette affiche.
Ben ouais, imaginez si des journalistes français voyaient leur affiche en 4x4 à côté de la Tour Eiffel en disant avant un scrutin, ils ne décideront pas. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, c'est pas du tout nouveau. Hein, attention, on atteint effectivement dans cette campagne un degré de toxicité dans les relations entre Netanyahou et les médias comme on n'en a jamais vu. Mais ce caractère toxique dans leur relation existe depuis très très longtemps. Benjamin Netanyahou joue sur un sentiment qui est très répandu en Israël, qui est le sentiment que les médias représentent les élites anciennes, les élites de gauche. Et que, alors que la droite a été, à part quelques années, a été au pouvoir presque sans discontinuer depuis la victoire de Menachem Begin en 1977, malgré cela, il donne le sentiment que ces élites anciennes voudraient tirer le tapis sous les pieds de la droite et voulaient voler Israël aux Israéliens, ce qui est assez stupéfiant, comme si Israël n'appartenait qu'à la droite, en quelque sorte. Et donc, l'organisation de cette confrontation avec les médias, c'est quelque chose à la fois qui relève d'une conviction profonde de Netanyahou. Netanyahou pense que les médias sont très majoritairement de gauche et contre lui, mais ça relève aussi d'une stratégie, de quelque chose de très savamment calculé et qu'on peut faire remonter déjà à 99,
alors,
au terme du premier mandat de Netanyahou.
C'est extrêmement intéressant parce que il faut rappeler que Benjamin Netanyahou a fait ses études aux États-Unis, à Boston, au MIT, à la fin des années 70, que très rapidement il va rester aux États-Unis, il va travailler à Washington et qu'en réalité aux États-Unis, il a non seulement tissé des liens avec toute une forme d'intelligentsia américaine, mais également avec des journalistes et des hommes de télévision aux États-Unis. Donc en réalité, il a fait ses classes. Il a fait ses classes en Amérique.
Oui, c'est ce qu'on peut appeler Bibi l'Américain. Oui. C'est-à-dire que Netanyahou est recruté à l'ambassade israélienne à Washington, je crois que c'est en 1982, auprès de quelqu'un de très respecté et très influent qui s'appelait Moshe Arens, qui était l'ambassadeur. Et après, il est nommé ambassadeur auprès des Nations Unies. Un poste absolument clé où les diplomates israéliens sont amenés à être en contact avec les médias très souvent. Et Netanyahou devient une véritable bête de scène télévisée. Non seulement par ses propres qualités, par son flair, par son instinct, mais aussi par son travail.
Il faut rappeler que dans les années 80, naît CNN. Et ça va compter énormément.
Bien sûr. Et il va à très bonne école puisque il s'adresse à une consultante très prisée au sein des républicains américains, Madame Wilder, et avec elle, il travaille. Il travaille sans relâche. Il travaille avec des cassettes vidéo. Il revoit ses performances. Il s'améliore. Il cherche les punchlines pour être immédiatement identifiable et il comprend qu'il faut savoir résumer une pensée en 20 secondes, en 30 secondes, en fonction du média qui vous fait parler. Et très vite, il acquiert une renommée comme ça, comme diplomate et aussi comme excellent client à la télévision. Et évidemment, comme vous l'avez dit, il connaît Charlie Rose, il connaît Ted Koppels, toutes les stars de la télévision américaine dans les années 80.
Larry King qui ne tarit pas d'éloges sur ses qualités cathodiques. Il y aura pourtant dans les années 90 au fond une espèce de traversée du désert pour Benjamin Netanyahou revenu en Israël. Il va se sentir délaissé par les médias, il va se sentir mal aimé. Il conçoit à ce moment-là une forme d'amertume et de reproche dont il ne se départit jamais en fait.
Oui, il y a une année clé, c'est 1993. Oui. Au début de l'année, Netanyahou est candidat pour prendre la tête du Likoud, de son parti. C'est vraiment l'étoile montante à ce moment-là. Et un jour, à la maison, sa troisième femme, Sarah, qui est toujours sa femme aujourd'hui, reçoit un coup de fil anonyme. « Nous allons révéler une infidélité de votre mari. » Panique à bord dans le couple, crise. Netanyahou a un réflexe totalement américain et pas du tout israélien.
Ah oui.
Il se précipite sur un plateau de télévision pour anticiper les révélations et pour dire « Il y a un complot contre moi. » C'est la première rupture énorme dans sa relation entre lui et les médias. Il se sent comme une bête traquée à ce moment-là. Il essaie de prendre le dessus, mais en bousculant aussi la culture médiatique israélienne et en introduisant une sorte de virus américain de la vie privée et de la vie publique mélangée. À la fin de l'année, les accords d'Oslo sont signés pour aller vers un État palestinien.
Oui, c'est Rabin.
Avec Rabin. Et À ce moment-là, Netanyahou a pris la tête du Likoud et il se retrouve dans une situation incroyable. Lui qui était le chéri des médias quand il était revenu des États-Unis est complètement délaissé. Pourquoi ? Parce qu'il incarne le non à Oslo. Et il se retrouve avec une très forte amertume. Il a l'impression que l'ensemble des élites politiques, médiatiques, est en faveur des accords d'Oslo, alors que lui représente une part considérable de la société qui reste très sceptique à ce moment-là sur la possibilité de faire la paix avec les Palestiniens. Et donc, une fois qu'il accédera au pouvoir, puis qu'il perdra le pouvoir en 99, il n'aura qu'une obsession en tête, il faut que j'ai mes propres médias. Il faut que je contrôle mes médias.
Et il sera son propre ministre de la communication, ce qui par ailleurs est assez inédit aussi.
Il aura cette obsession et c'est incroyable parce qu'il a été... Il a toujours été, comme je vous l'ai dit, une vraie bête de scène. Mmh. C'est un orateur extrêmement talentueux. Et en même temps, il n'a jamais su s'arrêter. Il a toujours voulu tout savoir sur les vies des rédactions, tout contrôler. C'est pas du tout Erdogan, hein. Attention, on n'est pas dans la configuration de la Turquie. Il y a un grand pluralisme médiatique en Israël. Mais encore une fois, le caractère toxique de son obsession des médias, c'est peut-être ce qui, au final, on le verra dans les prochains mois, va provoquer sa perte.
Alors j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire d'un quotidien gratuit qui s'est mis au service de Benjamin Netanyahou, Israël Hayom, qui est la propriété d'un grand milliardaire qui a fait fortune aux États-Unis et qui, au fond, va faire alliance avec Netanyahou.
Ce milliardaire, c'est Sheldon Adelson et sa femme Myriam, qui joue un rôle non négligeable aussi dans leurs investissements. Sheldon Adelson est un magnat des casinos à Las Vegas. Et il décide, je crois que c'est en 2007, de créer un quotidien gratuit. Alors attention, ce n'est pas du tout le quotidien gratuit comme nous l'avons connu en France à une époque, avec Métro, etc. C'est un quotidien gratuit avec un vrai contenu, avec une vraie rédaction très étoffée et avec une ligne idéologique. Et cette ligne, c'est à droite toute.
Oui.
Et vers la droite messianique. Et Israël Hayom devient ce qu'on surnomme en Israël le Bibiton, c'est-à-dire un journal dédié au Premier ministre.
Extrêmement influent, par ailleurs.
Extrêmement influent et qui a complètement saccagé le marché publicitaire dans le secteur de la presse écrite, puisque les autres quotidiens, que ce soit le Haaretz, mais surtout le Yediot Aharonot, quotidien conservateur, s'est retrouvé face à une concurrence entre guillemets déloyal, avec ce gratuit financé à fond perdu par le milliardaire Sheldon Adelson.
Alors il y a aussi dans les relations qu'entretiennent les médias et Benjamin Netanyahou des dossiers. Alors qualifiés en Israël de dossier 2000, dossier 4000, pourquoi d'ailleurs ces appellations?
Excellente question,
vous ne savez pas, très bien, alors on cherchera.
Je vous l'expliquerai dans la prochaine émission.
C'est ça, on cherchera. Alors, on va commencer par le dossier 2000 et ensuite on viendra au dossier 4000. À chaque fois, ce sont des affaires de corruption dans lesquelles on demande une inculpation de Benjamin Netanyahou. Elles ne sont pas encore jugées. Le dossier 2000, c'est le dossier Arnon Moses.
Arnon Moses est quelqu'un qui est un acteur de l'ombre, propriétaire du journal Yediot Aharonot, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui a été une des obsessions de Benjamin Netanyahou pendant 20 ans. Son ennemi juré. Et qu'a-t-on découvert, grâce à des enregistrements clandestins de leur conversation téléphonique, c'est que Benjamin Netanyahou essayait de s'entendre avec Moses, en coulisses, pour s'assurer une couverture plus favorable de ce quotidien. Du Yediot Aharonot. C'est extraordinaire. Le Premier ministre avait déjà ce gratuit Israël Hayom entièrement acquis à sa cause et à celle de sa femme et de leurs intérêts politiques, mais ce n'était pas suffisant. Il voulait aussi adoucir la couverture de l'autre quotidien.
Et le dossier 4000, alors là c'est un site d'info qui s'appelle Walla, point d'exclamation, et sa maison mère, le groupe de télécommunication Bezeq. Là aussi, il y aurait eu entente.
Là aussi, il y aurait eu entente avec, encore une fois, à la clé, la volonté de Benjamin Netanyahou de contrôler le ministère des Communications. L'idée, c'est que il voulait s'assurer, encore une fois, une couverture favorable de ce site d'information Walla, qui appartient au groupe Bezeq, en donnant des privilèges à Bezeq dans le secteur économique. Et il faut se rendre compte jusqu'à quel point il y avait une conflit d'intérêts entre sa responsabilité politique et son rôle officieux de directeur de la rédaction de Walla, puisqu'il y avait des ordres réguliers, c'est ce qu'a dit la police dans un communiqué pour synthétiser ces investigations. Il y avait des exigences sur telle photo, sur tel article, telle couverture, non seulement sur Benjamin Netanyahu, mais sur sa femme Sarah, qui joue un rôle tout à fait décisif auprès de lui.
Alors on va parler maintenant de la façon dont la famille Netanyahu investit les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée du climat en Israël, je vous fais écouter alors un clip de campagne. Il n'est pas de Benjamin Netanyahou, il est d'une ministre de la justice israélienne qui parodie une pub de parfum, on dirait une pub de parfum Dior, sauf que là le parfum s'appelle fascisme.
Fascisme. Ma pecha shiputit. Tzimtzum aktivizm. Minui shoftim.
Voilà. Et elle achève, donc elle se parfume de fascisme et elle achève ce clip de campagne, c'est une très jolie femme, en disant pour moi ce serait plutôt le parfum de la démocratie. Donc déjà il faut dire un mot sur ces clips de campagne, complètement hallucinants.
Alors faut dire un mot de qui est cette personne, c'est Ayelet Shaked.
Oui.
Ce clip-là a été diffusé non pas pour cette campagne-là, mais pour celle d'avril.
Au mois d'avril.
Et on peut quand même se réjouir pour la du résultat négatif de ce clip, puisque le parti de Ayelet Shaked et de Naftali Bennett n'avait pas passé la barre des 3,25% et ne s'était pas qualifié à la Knesset au terme de ces élections. Ce clip a provoqué un déluge de réactions. Ce que je trouve le plus inquiétant, c'est la démonétisation complète des mots. C'est-à-dire que les mots n'ont plus aucun sens, n'ont plus aucune signification. On associe un parfum au mot fascisme. C'est plus rien ne veut rien dire. Ça aussi, c'est une forme de toxicité quand tout devient relatif. Dans cette campagne-là, dans la campagne actuelle qui va trouver sa conclusion demain, on a aussi eu des clips absolument effrayants. Cette tradition du clip très court et très incisif, on peut la faire remonter à 1996. Déjà, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Mais il y a une tradition, une inspiration américaine ?
Très clairement.
Très clairement.
Netanyahou a des conseillers américains. Il les a toujours eu auprès de lui, des conseillers républicains. En 1996, pour faire tomber Pérez, donc Yitzhak Rabin a été assassiné l'année précédente, il y a des élections anticipées, situation de crise nationale. Et avec ses conseillers américains, Benjamin Netanyahu va marteler un message dans des clips très courts de 30 secondes, uniquement à la télévision à l'époque, en disant « Pérez divisera Jérusalem, Pérez divisera Jérusalem ». Il l'a répété en boucle et le message a été très efficace.
Aujourd'hui, 2,3 millions d'abonnés sur sa page Facebook à Benjamin Netanyahu, des comptes Twitter en 5 langues, dont le farsi. Le 2 février, il a lancé une chaîne numérique, Likoud.tv. Il a de très jeunes conseillers formés à l'armée, qui justement manient avec brio et dextérité ce langage sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas à enregistrer des vidéos très incendiaires les jours de vote et à se mettre lui-même en scène sous toutes les coutures, presque comme un personnage de télé-réalité.
Il faut que la campagne se résume à un seul mot, Bibi, 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 Bibi. C'est l'objectif, un peu comme Donald Trump aux États-Unis, c'est la saturation. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est l'ampleur de l'enveloppe. Il faut que tout le reste disparaisse, que les grands enjeux disparaissent, que les autres candidats soient noyés sous cette avalanche d'informations. Et c'est vrai que Benjamin Netanyahu est un précurseur dans ce domaine. Il a compris bien avant les autres qu'il n'avait pas besoin des médias comme intermédiaires et comme relais. Il a eu cette intuition formidable avec ses conseillers qu'il pouvait s'adresser directement au public et que ça allait accentuer cette idée que les médias sont aussi un des ennemis qu'il a affronté.
Merci beaucoup Piotr Smolar, merci d'avoir été aussi pédagogique dans vos explications. Vous revenez quand vous voulez, tous les 15 jours, hein, c'est le rythme qu'on prend. Je rappelle que votre livre...
Je vais planter ma tente.
...s'appelle Mauvais Juif, qu'il est paru aux éditions de l'Équateur et que vous y détaillez un autre volet de votre expérience de journaliste à Jérusalem, à savoir par exemple comment l'État israélien traite les correspondants étrangers. C'est très intéressant. Merci et donc à très bientôt.